La matinale de Radio Classique avec Marc Bourreau.
Chaque heure compte. Passez à l'action avec Bougardier. Des financements sur mesure pour les audacieux, de l'hypothèque à la fiducie sûreté. Et c'est sur bougardier.fr.
8h sur Radio Classique. Bon réveil, bonne journée à tous.
7h, 9h, la matinale de Radio Classique. Avec Marc Bourreau.
Et Virginie Fulpin pour le journal.
La Chine, première cible, mais l'Europe pourrait être la première victime des droits de douane américains avec la crainte d'un déferlement de produits chinois. La crise entre la France et l'Algérie. 3 Algériens arrêtés en France. Les autorités algériennes demandent en représailles à 12 agents de l'ambassade de France de quitter le territoire. Et puis une exposition avec des objets millénaires mais si proches de l'actualité. On vous fait découvrir les trésors cachés de Gaza en fin de journal.
À suivre, Marine Le Pen, candidate à la présidentielle coûte que coûte dans l'édito politique de Guillaume Tabar. Enfin, le monde scientifique à l'heure des coups de boutoir de Donald Trump. On en parle avec l'immunologue Alain Fischer, l'invité de Radio Classique à 8h15. À la une, Virginie, le monde veut mieux gérer les pandémies.
5 ans après le Covid, il faut avancer. Les États membres de l'Organisation mondiale de la santé ont trouvé un accord de principe ce week-end pour mieux anticiper et gérer d'éventuelles futures pandémies. Ce texte devrait être définitivement ratifié fin mai et c'est un grand pas en avant, Rémi Fister.
Il aura fallu 24 heures de négociations ininterrompues, mais les principes sont posés, solidarité et équité, avec en premier lieu un partage des données scientifiques et la création d'un système mondial d'accès aux pathogènes. Le transfert de technologies au profit des pays en développement a lui fait l'objet de débats houleux. Obligation ou volontariat, les États où l'industrie pharmaceutique pèse lourd ont finalement accepté d'accorder des licences sur leurs futures technologies, mais sous l'égide de l'OMS. Pour rendre plus rapide l'accès à ces produits de santé, les pays développés s'engagent à accroître leur production. Un réseau mondial de chaînes d'approvisionnement et de logistique devrait également voir le jour. Autre point essentiel, la prévention. Chaque État doit renforcer ses campagnes vaccinales et surveiller les maladies infectieuses sur son sol, avec une vigilance particulière sur les zoonoses, ces maladies qui se transmettent entre les animaux et les humains, car tous les partis avaient en tête la flambée de grippe aviaire qui touche actuellement l'Amérique du Nord. Les États-Unis, pourtant grands absents de ces négociations, après avoir quitté l'OMS en janvier dernier, et privé donc le monde de milliards d'euros d'aide internationale et d'expertise sanitaire.
Une nouvelle campagne de vaccination contre le Covid commence aujourd'hui pour les personnes vulnérables. Le Covid circule toujours et au bout de 5 ans, on ne sait toujours pas exactement d'où vient ce virus. Des scientifiques plaident pour créer une commission d'enquête parlementaire. Après les États-Unis et l'Allemagne, l'Académie de médecine de France penche aussi pour une fuite de laboratoire. Renaud Piarou est le chef du service d'infectiologie de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Il veut que les députés se penchent sur la question.
Cet accident de recherche potentiel a pu se passer dans un laboratoire qui avait été installé par la France en Chine, qui avait une coopération scientifique avec la France au moment du début de la pandémie. Ça ne veut pas dire que ce travail sur les coronavirus était fait dans ce laboratoire de haute sécurité. Ça vaut le coup quand même de se poser la question de ce qui était fait et ce que c'est devenu. Finalement, dans une démocratie, je pense que c'est le rôle des élus que d'aller interroger les experts, les services gouvernementaux sur ce qui s'est passé. Pour pouvoir prévenir une nouvelle pandémie du même type, c'est beaucoup plus facile si on a l'origine de la précédente.
Et on rappelle, Marc Bourreau, que votre invité à 8h15 est le spécialiste d'immunologie Alain Fischer.
Voilà, que l'on retrouvera à 8h15 effectivement. 8h03 pour l'instant, la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine va aussi toucher l'Europe, Virginie.
La principale cible de Donald Trump, c'est la Chine. Mais l'Europe fera aussi partie des victimes des droits de douane. Le président chinois Xi Jinping dénonce ce matin un protectionnisme qui ne mêle nulle part quand le président américain prévient qu'aucun pays n'est tiré d'affaire. Il annoncera dans la semaine des surtaxes sur les semi-conducteurs, des surtaxes américaine sur les produits chinois, ça veut dire plus de produits chinois sur le marché européen. Certains secteurs, comme le textile ou l'automobile, craignent en effet un déferlement de produits made in China, Zoé Pallier.
Aujourd'hui déjà, plus d'un colis sur 5 livré par la Poste vient de sites chinois comme Temu, géant du commerce à bas coût. Ce chiffre risque d'exploser si la Chine ne peut plus vendre aux États-Unis, redoute Alain Imberg, président de l'Association des créateurs français de jouets.
Ces fabricants chinois de jouets qui travaillent pour les grosses boîtes américaines type Hasbro, Mattel, qui ont leur plus gros marché aux États-Unis, il va bien falloir qu'ils trouvent un débouché. C'est sûr qu'il va rentrer des produits moins chers. ça défavorisera ceux qui fabriquent en France.
Face à ce risque, plusieurs réponses. La première consiste à renforcer les contrôles de la répression des fraudes pour vérifier que ces produits respectent nos normes. Autre levier, augmenter nous aussi en Europe certains droits de douane. Marc L'Olivier dirige la FEVAD qui réunit les professionnels du commerce en ligne.
Les petits colis en provenance de Chine aujourd'hui bénéficient d'une exemption de droits de douane, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de droits de douane sur les colis de moins de 150 euros. Et donc nous, ce qu'on demande effectivement, c'est qu'on mette un terme à cet avantage totalement injustifié qui est une concurrence déloyale pour nos entreprises.
Et puis, notamment pour des secteurs comme la chimie ou l'automobile, l'Europe pourrait activer ce qu'on appelle une clause de sauvegarde et mettre en place des quotas à l'importation.
Le ministre de l'économie, Éric Lombard, préfère nous prévenir. Si on veut tenir le déficit à 4,6% du PIB comme prévu, ça va demander un effort considérable, entre 40 et 50 milliards d'économies à trouver l'année prochaine.
8h05 sur Radio Classique, de nouvelles tensions entre la France et l'Algérie.
Les autorités algériennes demandent à 12 agents de l'ambassade de France de quitter le territoire sous 48 heures. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, dit que c'est une réponse à l'arrestation de 3 ressortissants algériens soupçonnés de faits graves sur notre territoire. Et il précise que la France est prête à des représailles en cas d'expulsion de ses agents. Dans ce contexte, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, est lui au Maroc pour évoquer la lutte contre le trafic de drogue et l'immigration irrégulière. Des dossiers qui avancent bien plus avec le Maroc qu'avec l'Algérie, Lauriane Toulmont.
Arrivé hier soir à Rabat, Bruno Retailleau a amené avec lui une liste de ressortissants présumés marocains que la France souhaite expulser. Certains cas sont toujours bloqués. Le ministre de l'Intérieur espère donc obtenir des laissez-passer consulaires. Rien qu'entre janvier et février, le Maroc en a délivré plus 93,5% par rapport à l'année dernière. Le signe de relation au beau fixe entre Paris et Rabat, et ce depuis la reconnaissance l'été dernier de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Une prise de position qui a provoqué le courroux de l'Algérie. Et depuis, Bruno Retailleau a beau enchaîner les menaces et les invectives. Avec Alger, rien n'y a fait. Le dossier algérien lui a d'ailleurs échappé au profit de l'Élysée et du Quai d'Orsay. Pour celui qui est aussi candidat à la présidence des Républicains, c'est un camouflet. Un sénateur LR note l'imprudence du ministre de l'Intérieur. Il est très brillant, mais sa surcommunication peut montrer son impuissance, poursuit l'élu en concluant. Plus ce gouvernement dure, plus Bruno Retailleau perdra.
Terrible, un mot de Donald Trump pour qualifier l'attaque meurtrière de l'armée russe sur la ville ukrainienne de Soumy hier. Au moins 34 morts, dont 2 enfants. La communauté internationale condamne et l'état-major ukrainien promet une riposte. À Gaza, c'est un bombardement israélien qui a mis à l'arrêt un des rares hôpitaux encore en fonction. Hier, un enfant est mort à cause de l'interruption des soins provoqués par cette frappe. Quand tout est dévasté, comment redonner toute son histoire à Gaza? C'est l'objet d'une exposition à l'Institut du Monde Arabe à Paris. Les trésors sauvés de Gaza, 100 pièces archéologiques issues d'anciennes fouilles dans la bande sont présentées au public. Nina Droff nous y emmène.
Là, on est devant une immense mosaïque qui date de 579 après Jésus-Christ.
Colonnes byzantines, statuettes d'inspiration hellénique ou encore vaisselle vieille de 4000 ans. 100 objets archéologiques qui témoignent de la richesse du patrimoine de Gaza, comme l'explique Elodie Bouffard, la commissaire de l'exposition.
Qui correspondent en fait à une traversée historique qui va de l'âge du bronze jusqu'à la période ottomane. Et qui sont donc en Europe depuis 17 ans et qui sont dans l'incapacité de rejoindre Gaza.
Une façon de redonner une histoire à la bande de Gaza, aujourd'hui détruite par la guerre.
Valoriser en fait les questions aussi historiques et culturelles et redonner une sorte de pénétration dans l'histoire de territoire qui est aujourd'hui en fait sont balayés par la tragédie contemporaine.
L'exposition veut également alerter sur la préservation des sites historiques de l'enclave palestinienne, aujourd'hui menacée. 94 sites ont déjà été endommagés par des frappes aériennes. Une catastrophe pour le patrimoine, selon Sandra Bialystok, directrice de la communication de l'Alliance internationale pour la protection du patrimoine.
Gaza, c'est quand même un lieu où il y a beaucoup de sites archéologiques. C'est très, très riche en archéologie, dont beaucoup de sites archéologiques sont endommagés.
La LIF participe actuellement à des actions de stabilisation des sites historiques et de mise à l'abri d'œuvres dans la bande de Gaza.
Cette exposition à l'Institut du Monde Arabe jusqu'au 2 novembre.
Et c'était le journal de Virginie Fulpin. Dans un instant, méthode Coué ou déni. Marine Le Pen, une candidate à la présidentielle, presque comme les autres dans l'édito politique de Guillaume Tabar. 8h09 sur Radio Classique.
À l'écoute des entreprises avec Harmonie Mutuelle.
Pour Harmonie Mutuelle, le système de santé doit évoluer. Lionel Fournier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur impact et santé durable chez Harmonie Mutuelle et aujourd'hui, vous nous parlez du mouvement de l'éco-santé. C'est quoi exactement ?
Eh bien, c'est une nouvelle approche de la santé. C'est être acteur de sa santé et notamment agir avant que les problèmes n'apparaissent.
Et que propose Harmonie Mutuelle, justement ?
Eh bien, nous proposons des solutions de prévention pour permettre à chacun de bouger plus, mieux se nourrir ou se faire dépister à temps, par exemple.
Et pour les entreprises et les entrepreneurs ?
On accompagne les dirigeants et leurs salariés à prendre en main leur santé en proposant des actions dans leurs locaux ou à distance pour gérer leur stress, bouger plus ou organiser des dépistages.
Très bien. Et si on veut rejoindre le mouvement de l'éco-santé ?
Eh bien, c'est simple. Rendez-vous sur harmoniemutuelle.fr.
Waouh ! Pour la troisième fois consécutive, vous avez choisi Action comme enseigne préférée des Français. Merci pour votre confiance et à bientôt dans nos magasins. Action, petit prix, grand sourire.
Aujourd'hui, Sylviane a le sentiment du devoir accompli. À 78 ans, elle vient de donner un coup de pouce financier à ses petits-enfants. Mais surtout, Sylviane a fait une donation à la Fondation Foch. Elle aide ainsi 300 médecins et chercheurs de l'hôpital Foch à combattre la maladie et soutient une médecine d'excellence au service de tous. Legs, donation, assurance vie. Comme Sylviane, soutenez l'hôpital Foch. Appelez le 01 46 25 27 74 ou connectez-vous sur fondation-foch.com.
Bonjour, c'est Ève Ruggieri. C'est un bonheur de vous retrouver pour partir ensemble vers le soleil de la Sicile. Palerme et ses palais privés, la somnambule de Bellini au Teatro Massimo et le privilège d'un dîner-concert d'exception au Palazzo Francavilla. Autant de superbes moments de musique et d'émotions partagées avec vous.
Palerme lyrique avec Ève Ruggieri, du 20 au 25 octobre. Un voyage événement avec Radio Classique et Intermed, le spécialiste du voyage culturel. Réservation au 01 40 08 50 40 ou sur intermed.com.
Mano Mano. Regardez son jardin en friche. Allez sur Mano Mano, chercher une tondeuse, trouver la Makita sans fil à seulement 135 euros. Se faire livrer rapidement, passer son samedi au grand air. Vous savez tout. En avril, les prix bas jardin sont chez Mano Mano.
Bricolage, maison, jardin, manomano.fr, vous pouvez le faire.
Mano Mano. Offre soumise à condition, voire détails sur manomano.fr.
Peugeot. Vous êtes au volant et vous croisez la Peugeot 208. Vous pensez, pas mal. Et si je vous dis qu'elle est proposée en version électrique, hybride ou essence et qu'elle est à partir de 170 euros par mois et toujours jusqu'à 8 ans de garantie offerte, là, vous pensez que c'est vous qui devriez être à son volant.
LLD 49 mois, 40 000 km. Premier loyer 2500 euros pour une 208 style essence neuve réservée aux particuliers jusqu'au 30 avril si acceptation crédit part. Garantie à l'URCAIR, conditions sur Peugeot.fr. Pensez à covoiturer.
Cuisine Xina présente son offre jusqu'à 100% de la pause offerte.
Ah, ça c'est bien.
Profitez-en dès maintenant.
Maintenant parce que là on est en train de préparer un rôti.
T'embête pas, on prend le rôti avec nous.
Xina, des offres qui ont tout compris à la vie. Voir conditions sur Xina.fr.
Dans un instant, l'édito politique de Guillaume Tabar sur Radio Classique.
Mais c'est votre canapé qui fait ce bruit.
Vous méritez mieux. Vous méritez un nouveau poltronnet sofa. Avec 30% de remise sur beaucoup de canapés comme en exposition.
Ah là, on entend quel confort. Poltronnet sofa, 30 ans de qualité.
Et voilà.
30 ans de qualité, vérifiez les conditions en magasin.
La matinale de Radio Classique avec Marc Bourreau.
8h12 sur Radio Classique, l'édito politique de Guillaume Tabar du journal Le Figaro. Bonjour Guillaume.
Bonjour Marc.
Deux semaines après sa condamnation, Marine Le Pen persiste à dire « Je serai candidate à la présidentielle ». Est-elle dans le déni ou dans la méthode Coué, Guillaume ?
Écoutez, à l'entendre, ni l'un ni l'autre. Elle ne ferait que traduire une simple réalité. Puisqu'elle fait appel et puisque l'on sait que cet appel interviendra à l'été 2026, eh bien, il n'y a pas lieu de faire d'ici là comme si elle ne serait pas candidate. Vous savez, c'est la phrase qu'elle emploie souvent. Il n'y a pas de raison d'évoquer un plan B tant qu'on n'a pas été jusqu'au bout du plan A. Et c'est pour cela que lorsqu'elle s'est exprimée dans l'hémicycle la semaine dernière, eh bien, ce n'était pas pour parler de son affaire, ça, elle laisse ça à ses lieutenants, mais de Mayotte, son sujet ultramarin fétiche. C'est pour cela qu'elle se prépare à mener la bataille sur la programmation pluriannuelle de l'énergie, le débat arrive bientôt à l'Assemblée, et enfin qu'elle se met dès maintenant dans la préparation des municipales.
Se projeter dans l'action, n'est-ce pas aussi un moyen de ne pas voir cette inéligibilité qui arrive, Guillaume?
Eh bien, en privé, Marine Le Pen fait cette confidence. Après avoir tout sacrifié depuis 50 ans, ils peuvent m'euthanasier, mais je ne leur ferai pas le cadeau de me suicider. Alors, on voit qu'elle file la métaphore du débat actuel sur la fin de vie pour dire que oui, le couperet va peut-être finir par tomber, mais qu'on ne compte pas sur elle pour prendre les devants. Mais dans cette précision de date, il y a quelque chose d'important. Car
Quand elle dit avoir tout sacrifié depuis 50 ans, ça renvoie à quoi? Eh bien, ça renvoie à cette nuit de 1976 où une petite fille de 8 ans a été réveillée en pleine nuit par l'explosion d'une bombe détruisant l'appartement familial. Donc Marine Le Pen dit que son combat, qui risque de se briser avant même de franchir les portes de l'Élysée, eh bien ce combat a commencé dès qu'elle a compris ce qu'elle aurait à vivre et à subir à cause de ce patronyme Le Pen. C'est ça qui explique aussi cette combativité qui est sa marque de fabrique, en dépit du coup de massue dont elle ne cherche pas à masquer la dureté.
Est-ce que cela veut dire qu'elle se refuse à envisager quoi que ce soit avant l'été 2026, Guillaume ?
Alors, ça c'est ce qu'elle feint de dire, mais ça n'est pas tout à fait ce qu'elle fait. Il y aura donc cet appel à l'été 2026, mais s'il ne lui est pas favorable, on sait qu'elle ira en cassation. Mais ça, et ça elle ne l'a pas encore dit publiquement, elle n'attendra plus à ce moment-là pour adouber Jordan Bardella. Marine Le Pen ne veut pas que son calendrier judiciaire personnel nuise au calendrier politique du Rassemblement National. Ce serait irresponsable, confie-t-elle. Donc même si elle va en cassation, eh bien c'est après l'appel qu'elle tranchera pour la présidentielle. Et si l'hypothèque n'est toujours pas levée, eh bien, elle passera le relais et convoquera un congrès du RN à l'automne 2026 pour désigner Bardella comme candidat à l'Élysée. Et de même, si une dissolution devait à nouveau intervenir d'ici à 2027 et que donc, par définition, elle ne puisse plus se représenter elle-même à la députation, alors Jordan Bardella, qui pour l'instant n'est qu'au Parlement européen, serait candidat aux législatives, il quitterait le Parlement européen et il remplacerait Marine Le Pen à la présidence du groupe RN. Voyez, elle veut espérer jusqu'au bout pouvoir être la candidate naturelle de son parti, mais elle ne veut pas que l'on puisse croire qu'elle ne donnera pas au président du RN le temps ni les moyens d'entrer, si nécessaire, dans le costume de candidat.
L'édito politique de Guillaume Tabar, comme tous les matins. Merci beaucoup Guillaume, et à demain 8h16 sur Radio Classique. Tout de suite, l'invité de la matinale. Bonjour Alain Fischer.
Bonjour.
Bienvenue sur Radio Classique. Vous êtes pédiatre, spécialiste en immunologie, professeur émérite au Collège de France. Les auditeurs de Radio Classique connaissent forcément votre visage. Vous étiez le monsieur vaccin pendant la pandémie de Covid-19. Et revoilà les piqûres. L'État lance à partir d'aujourd'hui une grande campagne vaccinale contre ce Covid-19 en prévision de l'été pour protéger les populations les plus fragiles. De quoi s'agit-il ? C'est de la prévention ou la tendance est à la reprise de l'épidémie ?
Par définition, la vaccination est du domaine de la prévention, mais oui. Une prévention efficace, je me permets de rappeler que à l'échelle mondiale, la vaccination contre le Covid a probablement sauvé environ 20 millions de vies, et sans compter le nombre d'hospitalisations en France et dans le monde entier. Alors, ayant dit cela, aujourd'hui, le virus circule toujours à bas bruit, mais on a vu pendant 2024 qu'il y a eu plus de cas pendant la période estivale et automnale, et il n'y a aucune alerte particulière à avoir, bien naturellement, mais pour les personnes les plus fragiles, sont les personnes âgées de plus de 80 ans, et ce sont les patients immunodéprimés, par exemple des gens qui ont reçu des transplantations d'organes ou quelques autres, donc vous voyez, une population minoritaire, eux sont malheureusement, même aujourd'hui, dans le contexte où le virus circule peu, mais circule, ne sont pas à l'abri. Il y a encore actuellement, si on prend les chiffres de Santé publique France qui surveille très attentivement cela, environ chaque semaine, il y a de l'ordre de 30 personnes qui décèdent de Covid. Ce sont ces personnes-là très âgées ou très fragiles. Donc ces personnes méritent notre attention, méritent qu'on fasse le maximum pour sauver leur vie, éviter qu'ils soient hospitalisés, et ça implique pour eux qu'ils reçoivent une dose de vaccin supplémentaire maintenant, mais que eux, pas le reste de la population. Par contre, ce qui est nécessaire pour le reste de la population au contact de ces personnes, c'est de garder les mesures que l'on connaît de protection, port du masque, lavage des mains, aération des pièces.
Je le disais, cette épidémie de Covid-19, c'était il y a 5 ans. Il y a 5 ans, jour pour jour, on était confinés dans nos appartements, dans nos maisons. Ça paraît très lointain maintenant. Comment on arrive à convaincre ces personnes âgées, notamment, d'aller se faire vacciner ? Il doit y avoir une certaine lassitude.
C'est clair qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus envie d'entendre parler du Covid. On le comprend. Mm-hmm. Ça a été une période difficile pour tous, même si... Et puis, il y a encore des conséquences, malheureusement, notamment d'ordre psychologique. Je pense en particulier à des plus jeunes, mais aussi des personnes âgées, dont on parle moins. C'est difficile, je pense néanmoins qu'il faut essayer, même si on n'obtiendra jamais un niveau de protection optimale. Il faut néanmoins essayer, pour les raisons que je viens d'indiquer, et d'essayer de combattre cette forme de lassitude et de volonté bien compréhensible d'oubli.
Plus d'informations aussi peut-être ? Il y a des personnes âgées qui ne sont pas au courant qu'il faut aller se faire vacciner.
C'est clair. Si on regarde la population des personnes âgées de plus de 80 ans, malheureusement en France, dans la société dans laquelle nous vivons, un certain nombre d'entre elles sont isolées, vivent presque seules. Et ont peu de contact avec leur famille, n'ont plus d'amis, etc., etc. Et par exemple, ce sont des personnes qui ont été très peu vaccinées au moment en pleine crise et qui ont souffert particulièrement du Covid. Donc il faut essayer, c'est difficile, via les soignants, les médecins, les pharmaciens qui ont un rôle important aussi, tous les infirmiers, infirmières qui peuvent être au contact de ces personnes pour d'autres raisons, de les convaincre de l'intérêt pour elles de se vacciner. Il y a eu également d'autres vaccins, mais spécifiquement aujourd'hui contre le Covid.
Le vaccin, il a évolué en 5 ans, c'est toujours le même procédé. On connaît maintenant ce terme, l'ARN messager, c'est toujours ce qui est utilisé.
Alors il y a plusieurs types de vaccins, mais clairement le vaccin de loin le plus utilisé, de fait le plus efficace et globalement très bien toléré, ce qui est important à rappeler, ce sont les vaccins fondés sur l'ARN messager, donc qui apportent l'information permettant la vaccination. Alors, ils ont un tout petit peu évolué pour s'adapter à l'évolution du virus, qui lui-même passe son temps, entre guillemets, comme le virus de la grippe, si vous voulez, à muter. Donc il y a eu des évolutions successives de vaccins qui sont très bien adaptés, pas parfaitement, mais très bien adaptés au virus qui circule aujourd'hui.
L'ARN messager, justement, donc on le connaît depuis 5 ans, il a évolué, et notamment pour d'autres maladies, d'autres épidémies, les porteurs d'espoir.
Stricto sensu, l'ARN messager, la connaissance de l'existence d'ARN messager dans toutes nos cellules, ça date de 1961.
Ça remonte plus loin, oui.
C'est important de le rappeler, parce que parfois les gens, oulala, ça a été mis au point en quelques mois, c'est n'importe quoi. Il faut savoir que derrière les vaccins ARN messager, il y a presque 64 ans de recherche fondamentale, puis appliquée avec l'idée qu'on va pouvoir utiliser les ARN messagers pour vacciner. Donc cette recherche continue, et elle continue bien sûr pour chercher à utiliser cette approche pour d'autres maladies infectieuses. Il y a un vaccin qui vient d'être mis au point, par exemple, pour les bronchiolites du nourrisson, mais aussi des personnes âgées, qui est le virus provoqué par le virus respiratoire syncytial. Il y a un vaccin ARN messager qui va être disponible, et puis cela continue pour d'autres maladies infectieuses, ainsi que pour essayer de protéger les gens contre leur cancer.
Contre le cancer, justement, c'est en expérimentation pour l'instant.
Oui, absolument.
Avec des résultats.
C'est assez complexe. Et puis c'est pas le cancer, c'est autant de cancers que d'approches thérapeutiques différentes. On peut avoir un jour un résultat pour un type de tumeur donné, mais uniquement celle-là. Donc c'est comme les maladies infectieuses. Si vous voulez schématiquement, il n'y a pas un vaccin contre les maladies infectieuses. C'est maladie par maladie.
Une autre actualité, Alain Fischer, en ce moment, c'est la science qui se retrouve en pleine tempête aux États-Unis. Des chercheurs licenciés du jour au lendemain, des fonds coupés, un secrétaire à la santé qui promet de stopper toute recherche sur les maladies infectieuses. Et puis j'ajoute à cela, la liste est longue, Donald Trump qui a sorti les États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé. Quelle est l'étendue des dégâts aujourd'hui en ce qui concerne justement tout ce qui concerne les épidémies aujourd'hui?
Considérable, ouais. C'est un drame. Jamais je n'aurais pensé dans ma vie professionnelle, ma vie tout court de citoyen, d'avoir à être confronté à une telle politique désastreuse qui est en train de détruire une partie de la recherche scientifique aux États-Unis, pas seulement la santé d'ailleurs, l'environnement, certains secteurs des sciences humaines et sociales, etc. C'est fou ce qui se passe. Si on fait le lien avec ce qu'on discutait il y a un instant, par exemple, il y a des chercheurs aux États-Unis qui cherchent à mettre au point des vaccins contre tous les coronavirus. Le Covid, c'est un coronavirus, il y en a plein d'autres. Donc peut-être demain, il y aura un nouveau méchant, entre guillemets, coronavirus. Idem pour la grippe. Ces recherches qui étaient financées à des montants très élevés, ont été arrêtés. C'est fou, c'est absolument fou. Ça s'accompagne de licenciements massifs, tant de chercheurs que de personnel impliqué dans les questions de santé publique. Au total, 20 000 personnes sur 80 000 de la fonction publique de santé américaine. C'est le quasi-arrêt des aides aux pays du Sud, que ce soit en termes de recherche ou en termes directement de soins, de par exemple traiter des patients atteints de sida par les médicaments antirétroviraux, des femmes leur apporter la contraception, etc. etc. Donc ce sont des dommages pour leur propre pays, mais des dommages pour le monde entier, ce d'autant aussi qu'en termes de recherche, bien sûr, la recherche n'a pas de frontières, et donc il y a beaucoup de collaborations internationales, la France étant impliquée, qui reposent en partie sur ce qui se passe aux États-Unis. Donc c'est vraiment une attaque extrêmement grave qui va retarder des développements médicaux, des développements en santé, et qui va affecter les populations immédiatement aux États-Unis et dans le monde entier.
Et dans ce schéma-là, quel rôle peut jouer l'Europe dans tout cela? Est-ce qu'elle a les moyens de reprendre un peu le flambeau, j'allais dire?
C'est sûrement, en tous les cas, il faut avoir cette volonté, comme on le voit dans d'autres domaines, mais qui sont politiquement liés, à mon avis. Il faut essayer, c'est difficile, parce que la place des États-Unis est prépondérante, tant en recherche proprement dite, qu'en aide pour les pays du Sud, même si par habitant, elle n'est pas si élevée que ça, mais compte tenu de la taille des États-Unis, cela est important, donc on ne peut pas les remplacer du jour au lendemain. Mais c'est certainement... une justification, si tant est qu'il n'y en avait pas d'autres, à accentuer les efforts de recherche et aussi, si on le peut, à accentuer les efforts de solidarité. On peut aussi ajouter que, j'espère que cela va être mis en place en France et en Europe, nous devons exprimer notre solidarité en permettant à des chercheurs en difficulté aujourd'hui, aux États-Unis ou d'ailleurs dans quelques autres pays qui vivent la même chose, je pense à l'Argentine, c'est le même drame, avec la présidence de M. Milei, même politique, même idéologie, il faut essayer d'aider ces gens et donc leur donner une possibilité d'accueil pour travailler en France.
Faut-il créer un statut de réfugié scientifique? C'est ce que propose ce matin, par exemple, dans le journal Libération, l'ancien président de la République, François Hollande, et Éric Berton, le président de l'université Aix-Marseille. Il faut commencer à réfléchir à une fuite des cerveaux, hein, disons-le clairement.
Oui, alors je ne sais pas quel terme il faut employer. Ce qu'il faut, c'est permettre à ces gens d'entrer sans difficulté dans le pays, quelle que soit leur nationalité. Il faut savoir que la recherche aux États-Unis, elle est faite par évidemment des citoyens nord-américains, mais par des gens de toutes les nationalités, des Français d'ailleurs, mais aussi des gens venant d'Asie, d'Afrique, d'Amérique du Sud, etc. Donc, quelle que soit la nationalité des gens, il faut ne pas leur mettre de barrière d'entrée, qui est un problème pas toujours simple en termes d'accueil
d'étrangers. Quelles difficultés peuvent être
Qu'on leur demande des papiers, enfin qu'on retarde leur entrée parce que le délivrage avec une délivrance de visa complexe. Donc, il faut que ces gens puissent entrer aisément, quelle que soit leur nationalité. Et ensuite, donc, il faut leur donner des moyens de travailler, un salaire et des moyens de travailler. Ce qui s'est fait un petit peu, par exemple, avec un programme qui s'appelle le programme PAUSE, qui est moins connu, mais pour des chercheurs venant d'Ukraine ou d'autres pays en difficulté, mais à une plus petite échelle, en les aidant en tous les cas personnellement, mais là, c'est une plus grande échelle, à la fois en termes de nombre de personnes et en termes aussi de moyens accordés pour qu'ils puissent travailler. Donc, il faut tous être ensemble et les placer dans un environnement satisfaisant pour qu'ils puissent travailler. Sinon, ils ne viendront pas en France, c'est une évidence, et il faut leur trouver des lieux d'accueil.
Dernière question sur ce qui s'est passé ce week-end. Les délégués des États membres de l'OMS ont trouvé un accord de principe sur un texte pour mieux protéger le monde de futures pandémies. C'est un leurre, selon vous? Est-ce que c'est vraiment utile?
Oui, sur le principe, c'est une évidence. Je veux dire, c'est sûr et certain qu'un jour ou l'autre, on ne sait pas quand, il y aura une nouvelle pandémie. Il suffit de regarder derrière nous, les épisodes de grippe graves, sans remonter à la fin de la Première Guerre mondiale, mais etc. Et donc, il y aura d'autres pandémies. Donc, il faut se préparer. Et on ne va pas se préparer dans un pays, c'est à l'échelle mondiale. Donc, qu'il y ait une organisation, et c'est absolument le rôle de l'OMS de le faire, qui permette cela, c'est indispensable. Maintenant, il faut être face aux réalités, aux difficultés, notamment celles dont on vient de parler. C'est-à-dire que la contribution des États-Unis à cette surveillance mondiale est en train de se casser la figure. Donc, c'est très difficile. Il va falloir trouver des moyens de compensation en attendant que les États-Unis veuillent bien se remettre en état de marche. Mais il faut aller quand même dans ce sens. C'est une réalité à laquelle le monde est confronté et il faut l'affronter.
Merci beaucoup Alain Fischer d'être venu ce matin sur Radio Classique, professeur d'immunologie pédiatrique, président de l'Académie des sciences. Je le rappelle, donc, grande campagne de vaccination contre le Covid pour les populations les plus fragiles, c'est à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 14 juin. Bonne journée.
Merci.
Et à bientôt, 8h28 sur Radio Classique. Dans un instant, Esprit Libre, comme chaque lundi, le philosophe Luc Ferry est avec nous juste après le rappel des titres et la revue de presse d'Augustin Lefebvre.
Après 50 ans de mariage, ma femme, c'était mon repère. Autant vous dire qu'à son décès, j'étais déboussolé. Je ne savais pas vers qui me tourner. Alors j'ai appelé le 3012 Urgence Décès. Un conseiller PFG m'a orienté, puis il s'est occupé de tout.
En cas de décès, appelez gratuitement le 3012. Une équipe Urgence Décès PFG vous répond 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour une prise en charge partout en France. Urgence Décès 3012, un service PFG. Renault.
Tous les hybrides ne se valent pas. Renault Full Hybrid E-Tech sans recharge, c'est la technologie Full Hybrid numéro 1 en France. Avec jusqu'à 1100 km d'autonomie sans recharge et sans refaire le plein. Comme par exemple Renault Symbiose Full Hybrid, des 320 euros par mois. 2 mois de loyer offerts.
En 2024, source 3 Adata selon version et conduite. Symbiose Evolution Full Hybrid 145 heures option. LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 4 000 euros. Troisième et quatrième loyer offerts si accordiaque. Offre à particulier jusqu'au 30 avril, voir Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
L'année dernière, Amazon était le premier acheteur privé d'énergie renouvelable au monde. Ça veut dire que de plus en plus d'énergie provient de parcs éoliens comme celui-ci.
Les gars, on ne devrait pas plutôt enregistrer au parc solaire?
Pour en savoir plus, rendez-vous sur eventamazon.fr/notreplanète. Oh.
Madame Figaro, spécial déco est en kiosque. On s'évade et on prend la direction de Minorque ou encore du Brésil pour des escapades dans des maisons de rêve. Partez à la rencontre des jeunes designers français qui comptent et toujours toutes les nouveautés et les tendances du moment. Madame Figaro, spécial déco, en vente actuellement.
Aesio Mutuel présente.
Oh, salut Thermos, ça va? On profite de la retraite?
Ah, t'as pas idée, je passe mes journées au bain chaud.
Bah oui, t'as l'air changé, t'es beaucoup plus rouge-violet. C'est nouveau les cloques?
Mais quoi?
T'as une bonne mutuelle, rassure-moi.
Non, je t'ai dit que j'étais à la retraite. Pourquoi?
Non, pour rien.
Ne pas avoir de mutuelle quand on est à la retraite, c'est du passé. Avec Aesio Mutuel, c'est s'assurer d'une continuité dans sa couverture santé tout au long de sa vie. Aesio Mutuel, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Contactez votre conseiller dès maintenant. Renseignements sur aesio.fr.
Le changement climatique est une réalité, la transition énergétique une nécessité. Pour transporter les gaz renouvelables, l'hydrogène et le CO2, GRT Gaz, opérateur national de transport de gaz, adapte son réseau et devient Natran. Du lundi au vendredi, dans la matinale de Radio Classique, Natran vous présente le journal de l'écho à 6h47. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Alors, where is Brian? Où est Brian? Brian in the USA. Brian est aux USA. Where is Jenny?
Ben oui, elle est où, Jenny?
Il va falloir réviser votre anglais. En ce moment, avec les essais 100% électriques Ford, tentez de gagner 5 voyages à la découverte de l'Ouest américain. Inscrivez-vous sur Ford.fr.
Ah ben, tous les coups, elle est aux États-Unis. Hey, Brian!
Ford. Jeu valable du 15 mars au 30 juin 2025. Règlements et conditions sur Ford.fr. Gratuit, sans obligation d'achat. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Carrefour. Quand vous me dites « j'ai prévu 2 paniers pour la chasse aux œufs et je compte bien les remplir », eh bien je vous réponds que pour Pâques, il y a 8 euros offerts en bon d'achat tous les 20 euros d'achat sur tous les chocolats de Pâques, même en promotion. Et c'est dès vendredi et jusqu'à lundi dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Hors tablette de chocolat limitée à 3 bons d'achat par foyer valables du 22 avril au 4 mai, modalité complète sur carrefour.fr. Pour votre santé, bougez plus.
7h, 9h, la matinale de Radio Classique avec Marc Bourreau.
Et Serban de Pastre pour le rappel des titres à 8h30.
Alger demande à 12 agents de l'ambassade de France de quitter le territoire. Ils ont 48 heures pour le faire. Cela fait suite à l'arrestation de 3 Algériens en France, selon le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot. Il précise que la France est prête à prendre des mesures de représailles immédiates. Donald Trump doit annoncer de nouveaux droits de douane cette semaine. Ils porteront sur les semi-conducteurs. Le président américain met en garde. Aucun pays n'est tiré d'affaire, surtout pas la Chine. Les produits chinois sont taxés à 145% depuis la semaine dernière. Et puis c'est la frappe russe, la plus meurtrière depuis des mois en Ukraine. Elle a touché la ville de Soumy dans le nord-est du pays hier. Au moins 34 personnes sont décédées, plus d'une centaine ont été blessées. Condamnée par les Européens et les Nations Unies, elle intervient 2 jours après la visite d'un haut responsable américain en Russie.
Merci Servane, 8h32, Augustin Lefebvre ouvre le grand kiosque de Radio Classique. Bonjour Augustin.
Bonjour Marc, bonjour à tous.
À la une ce matin, vous nous emmenez à l'Assemblée nationale pour commencer cette revue de presse.
Oui, l'Assemblée est devenue un sac de nœuds selon l'opinion, qui résume en chapeau. Incident de séance, obstruction bête et méchante, amendements non prévus, arbitrages qui se font attendre, autant d'éléments qui illustrent un Parlement devenu illisible pour ses observateurs comme pour ses acteurs. Premier problème, l'agenda. Les travaux des députés sont actuellement suspendus pour 2 semaines et le gouvernement a tenté de faire passer plusieurs textes avant cette pause, sans succès. Le projet de réforme de l'audiovisuel public, par exemple, a été inscrit à l'ordre du jour avant d'être officiellement retiré par manque de temps. Car, deuxième problème, les parlementaires, lâchés en pleine nature, poussent leurs propositions sans aucune coordination. François Bayrou ne pose aucun cadre. Et le journal de citer une ministre, Le chef du gouvernement a des idées très arrêtées sur ces sujets. Élus, collectivités locales, démocratie. Quand il n'a pas d'idées claires, il explique qu'il faut que le débat parlementaire se fasse. Ambiance. Sur la suppression des zones à faible émission, débattue la semaine dernière, le Béarnais critique la méthode avec laquelle elles ont été instituées. Est-ce que ça veut dire qu'il est pour cette suppression ? 3 jours de flottement avant une clarification ? Eh bien non, le gouvernement défend leur maintien. Ce flottement a des conséquences. Les parlementaires s'arrachent les cheveux, écrit l'opinion. Les textes doublonnent, faute de vision d'ensemble. C'est la porte ouverte aux incohérences. Avec par exemple, en moins d'un mois, l'adoption de textes qui régulent et qui dérégulent l'usage des pesticides.
Cette situation a des conséquences sur la qualité des textes de loi, Augustin.
Oui, un article dans Le Monde daté d'aujourd'hui complète la lecture de l'opinion. Il est consacré aux malfaçons qui se glissent dans les lois et se multiplient. Ainsi, la décision du 20 mars du Conseil constitutionnel sur la loi d'orientation agricole est cinglante. Plusieurs articles ont été censurés car inintelligibles ou pour non-respect de la séparation des pouvoirs. Des erreurs basiques qui s'expliquent par la rédaction parfois plus politique que juridique d'un texte qui visait à répondre au mouvement des agriculteurs. Le phénomène serait assez ancien, mais se serait aggravé ces derniers temps. Le quotidien décrit des députés en campagne permanente par peur d'une nouvelle dissolution. Peu techniciens, ils se mobilisent fortement sur les sujets médiatiques. Ça explique une course entre groupes parlementaires avec des textes sur les mêmes dossiers comme les violences sexuelles. Pour exister, ces groupes parlementaires multiplient aussi les amendements synonymes de temps de parole en séance. Entre 2007 et 2024, leur nombre a été multiplié par 17 pour le budget. Des amendements parfois mal rédigés, mais ça n'empêche pas leur adoption. Le Monde souligne par ailleurs que depuis un an, le Parlement n'examine presque plus de textes gouvernementaux. L'instabilité a déréglé la machine et les ministres s'appuient sur les propositions des parlementaires car elles ont plus de chances de prospérer. Or, un projet de loi gouvernemental est mieux préparé. Il dispose d'une étude d'impact, d'un avis du Conseil d'État et il est élaboré avec plusieurs ministères. Un problème qui n'épargne pas le Sénat. La Chambre haute a récemment voté des dispositions inconstitutionnelles sur la justice des mineurs ou le mariage des sans-papiers. Inquiétude en guise de conclusion, le Conseil constitutionnel ne pourra pas toujours jouer le rôle de nettoyeur final des textes.
Cette situation d'instabilité ne touche pas que le Parlement, Augustin, et l'opinion affiche en une galerie de portraits.
Oui, compte en commun Tony Estanguet, Cyril Hanouna, Laurent Berger ou Vincent Lindon.
A priori,
oui, il y a beaucoup de choses qui les éloignent. Et pourtant, ces personnalités de la société civile apparaissent toutes dans un sondage Harris Interactive sur le potentiel électoral, c'est-à-dire les Français qui pourraient voter pour elle à la prochaine présidentielle dans 2 ans, sans qu'elle soit mise en concurrence, c'est-à-dire on préfère l'un plutôt que l'autre. Là, vraiment, on choisit toutes les personnes pour qui on pourrait voter. Avec les exemples de Javier Milei en Argentine et de Volodymyr Zelensky en Ukraine, l'opinion s'interroge sur l'émergence d'un nouveau Coluche, avec ce titre, la tentation de l'outsider. En réalité, bon, quand on lit le détail de l'enquête, ces personnalités apparaissent en bas du classement, derrière les responsables politiques actuels, et celles qui pourraient vraiment avoir envie de se présenter sont encore très très loin de l'Élysée. Mais bon, c'est révélateur du paysage, de l'incertitude qui domine désormais, du sentiment que tout peut arriver. Et quitte à faire des listes, pourquoi ne pas y ajouter d'autres personnalités croisées dans la presse de ce matin ? Marine L'Orphelin, Miss France 2013, elle vient de soutenir sa thèse de médecine, nous apprend le Parisien aujourd'hui en France. Pierre-Jean Chalençon, en pleine page dans le Figaro, faux sosie de Michel Polnareff et vrai admirateur de Napoléon, il va vendre son impressionnante collection aux enchères. Ou encore la cycliste Pauline Ferrand-Prévot, rayonnante dans Libération après sa victoire au Paris-Roubaix samedi. Oui, il peut encore se passer beaucoup de choses d'ici 2 ans.
Les jeux sont ouverts. Augustin, vous terminez cette revue de presse avec un écrivain qui avait voulu devenir président.
Mario Vargas Llosa, dont on a appris cette nuit la mort à 89 ans. Il s'était présenté à la présidentielle péruvienne en 90, battu au second tour par Alberto Fujimori, avant de revenir à l'œuvre de sa vie, la littérature, pour le plus grand plaisir de ses lecteurs. Quelques titres, Conversation à la cathédrale, La tante Julia et le scribouillard, La fête au bouc. Sur le site de Libération, Philippe Lançon parle du dernier des géants latino-américains. Peu d'écrivains ont décrit aussi bien la violence du pouvoir et les serviteurs de la mort. Mais l'homme, lui, était insolemment du côté de la vie, d'un enthousiasme presque minéral, se souvient le journaliste. Le Figaro.fr décrit un homme inspiré par Victor Hugo et Gustave Flaubert qui transformait en littérature tout ce qui lui arrivait. Il savait que tout le monde, sans exception, pouvait être sujet de récit. Pour lui, les mots étaient des actes. Ils peuvent changer la vie. La littérature a donc une responsabilité morale vis-à-vis de l'histoire. Il y avait plusieurs Mario Vargas Llosa, poursuit le Figaro, celui de la nostalgie, celui de l'orgie perpétuelle qui s'étourdit dans la littérature afin de mieux supporter l'existence, celui qui réinvente le roman érotique, celui qui s'empare d'un thème historique pour brosser le portrait d'une société et en faire le portrait. Le procès, pardon. Le Monde poursuit, on compte au total une trentaine d'ouvrages remarquables par la finesse de l'observation psychologique et sociale, la luxuriance des images, l'art de la polyphonie, une œuvre qui a reçu toutes les récompenses, l'entrée de son vivant dans la bibliothèque de la Pléiade, l'élection à l'Académie française et, summum, le prix Nobel en 2010. Son ultime roman a été publié en 2023. Il l'avait baptisé comme un testament. Je te dédicace mon silence.
La revue de presse d'Augustin Lefebvre, comme chaque jour, cette semaine à demain, Augustin. Et vous pouvez réécouter cette revue de presse sur l'application Radio Classique. 8h39, Esprit Libre, Luc Ferry, philosophe. Nous parlerons justement de cette disparition de Mario Vargas Llosa, juste après cette courte page. Bonne à tous elles, à tout de suite.
Les ETI sont essentiels dans la transformation durable de nos vies. Comment ? Réponse avec Grâce à nos ETI, chaque mardi à 7h29 avec Fabrice Lundy sur Radio Classique. Un programme proposé par KPMG, cabinet leader de l'audit et du conseil en France, engagé à agir pour une nouvelle prospérité plus durable et responsable.
Le changement climatique est une réalité, la transition énergétique une nécessité. Pour transporter les gaz renouvelables, l'hydrogène et le CO2, GRT Gaz, opérateur national de transport de gaz, adapte son réseau et devient Natrans. Chaque jour dans la matinale de Radio Classique, retrouvez Comment j'ai réussi à 6h15 avec Natrans. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Waouh ! Pour la troisième fois consécutive, vous avez choisi Action comme enseigne préférée des Français. Merci pour votre confiance et à bientôt dans nos magasins. Action, petit prix, grand sourire.
Deuxième avis ?
Chut, tu fais quoi là ?
Je consulte les astres.
Ah bon ? En plein jour ?
Non, parce que le médecin vient de me dire de me faire opérer, mais bon, j'aimerais bien avoir un deuxième avis quand même.
Et du coup, ils disent quoi les astres ?
Bah d'attendre la nuit, il paraît qu'elle porte conseil.
Bon, ben, attendons.
Attendre des siècles pour obtenir un deuxième avis, c'est du passé. Avec Aesio Mutuel et deuxièmeavis.fr, obtenez un deuxième avis médical en moins de 7 jours. Aesio Mutuel, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Informations et conditions en agence ou sur aesio.fr.
Cuisine Xina présente son offre jusqu'à 100% de la pause offerte.
Ah ça c'est bien.
Profitez-en dès maintenant.
Maintenant parce que là on est en train de préparer un rôti.
T'embête pas, on prend le rôti avec nous.
Xina, des offres qui ont tout compris à la vie. Voir conditions sur xina.fr.
Le plus grand événement des solutions pour la planète arrive à Paris. Change Now transforme le Grand Palais en exposition universelle des solutions durables. 3 jours de conférences, de rencontres inspirantes et 1000 innovations à découvrir. Le samedi, job fair, atelier famille, fresques et art pour tous. Entrez dans un monde durable à Change Now du 24 au 26 avril. Informations et réservations sur changenow.world.
Depuis plus de 4 siècles, Château Lagrange crée de grands vins et des millésimes remarquables. Une vocation inscrite dans le terroir de ce domaine emblématique de Saint-Julien. Au cœur du Médoc, la propriété vous accueille pour des visites privées, verticales de millésimes à l'aveugle, dégustation à la barrique et la découverte de sa table gastronomique d'exception. Entrez dans le domaine Château Lagrange, 3e grand cru classé depuis 1855. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Carrefour. Quand vous me dites « j'ai prévu 2 paniers pour la chasse aux œufs et je compte bien les remplir », eh bien je vous réponds que pour Pâques, il y a 8 euros offerts en bon d'achat tous les 20 euros d'achat sur tous les chocolats de Pâques, même en promotion. Et c'est dès vendredi et jusqu'à lundi dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive.
Carrefour, on a tous droit au meilleur. Hors tablette de chocolat limitée à 3 bons d'achat par foyer valable du 22 avril au 4 mai, modalité complète sur carrefour.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter.
Renault.
Tous les hybrides ne se valent pas. Renault Full Hybrid E-Tech sans recharge, c'est la technologie Full Hybrid numéro 1 en France. Avec jusqu'à 1100 km d'autonomie sans recharge et sans refaire le plein. Comme par exemple Renault Symbiose Full Hybrid des 320 euros par mois. 2 mois de loyer offert.
En 2024, source 3A Data selon version et conduite. Symbiose Evolution Full Hybrid 145 hors option. LLD 37 mois, 30 000 km, premier loyer 4 000 euros. Troisième et quatrième loyer offert si accordiaque. Offre à particulier jusqu'au 30 avril, voir Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Françoise, donatrice à la Fondation du patrimoine.
Notre patrimoine est en danger. Nos églises, nos petits théâtres, nos moulins, nos lavoirs disparaissent de nos paysages. Alors pour que nos enfants connaissent ces merveilles, j'ai fait un legs à la Fondation du patrimoine. J'aide ainsi son réseau de bénévoles, partout en France, à sauver cet héritage, témoin de notre histoire.
Contactez la Fondation du patrimoine au 09 80 80 99 98 ou sur fondation-patrimoine.org.
Cabinet de management de transition, Delville Management accompagne ses clients de manière responsable et durable dans leur transformation à forts enjeux stratégiques. Les managers de transition de Delville Management interviennent dans des situations d'urgence dans le cadre de missions ponctuelles. Et avec Delville Management, retrouvez les entreprises engagées en action chaque vendredi avec Fabrice Lundy dans la matinale de Radio Classique.
La matinale de Radio Classique avec Marc Bourreau.
8h44, Esprit Libre sur Radio Classique. Bonjour Luc Ferry, philosophe, ancien ministre de l'Éducation nationale. Alors, Augustin Lefebvre en parlait dans sa revue de presse d'ailleurs. À l'instant. Mario Vargas Llosa, donc décédé cette nuit à l'âge de 89 ans. Vous l'avez croisé, Luc?
Oui, je l'ai bien connu, même on était devenus amis, je dois dire. Comme ça. Je l'avais rencontré il y a peut-être 25 ans à Amsterdam, dans un colloque avec ma femme. On était d'ailleurs là. Il la regardait avec... c'était un homme à femme. Il était très beau gosse, faut dire.
Oui.
Il y a pas que la littérature. Il s'était aussi, je sais pas combien de fois il s'est marié, 3 fois, je crois, je sais pas exactement, mais c'était un homme à femme. C'était un homme très beau, très séduisant, avec énormément de charme, incroyablement intelligent, et puis évidemment un talent littéraire extraordinaire dont Antonin parlait tout à l'heure très bien. Il avait écrit un livre que j'ai beaucoup aimé. Alors on parle beaucoup de La Fête au Bouc, qui a été très très lu en France. Bon, mais il a écrit un livre qui s'appelait La Société du spectacle, reprenant le titre de Guy Debord, et qui était un livre au vitriol sur l'art, plutôt contre l'art contemporain, contre les âneries, si je puis dire, de l'art contemporain. Il parlait comme ça. On avait fait une émission ensemble à la Bibliothèque Médicis sur le sujet, on avait beaucoup ri tous les deux, et il était extrêmement sympathique. Alors c'était un vrai libéral, mais comme Schumpeter, qui parlait d'art capitaliste, c'était la formule de Schumpeter, il considérait que l'art contemporain n'était qu'un art pour l'essentiel, surtout l'art conceptuel minimaliste, n'était qu'un art de l'innovation et de la rupture avec la tradition. Voilà, et que ça, c'était pas suffisant, que c'était un art qui avait perdu le rapport à la beauté, et voilà, il y avait des concepts, il y avait des idées, mais il n'y avait plus de beauté, c'était un art de l'innovation et de la rupture avec la tradition, donc un art capitaliste, comme dit Schumpeter. Ce qui, évidemment, avait beaucoup choqué, parce que Picasso, qui est on peut dire le père fondateur de l'art moderne, sinon de l'art contemporain, était stalinien jusqu'au bout des ongles. Donc parler d'art capitaliste était étrange, mais l'idée révolutionnaire chez Picasso, c'était aussi l'innovation et la rupture avec la tradition. Et donc le capitalisme est une idée révolutionnaire, comme disait Schumpeter. Voilà, il y avait ça, et donc une analyse très profonde, hein, de pas simplement superficielle pour dire j'aime pas l'art contemporain, voilà, j'aime ça, j'aime pas ça, mais qui était une analyse de reprenant au fond les thèses de Schumpeter sur l'idée que l'art contemporain était au fond le seul art qui donne raison au capitalisme. Pas idiot, hein.
Et donc vous conseilleriez ce livre pour ceux qui n'ont pas encore lu justement Mario Vargas Llosa.
Il y a les romans, on peut conseiller la Fête au Bouc. Il y a aussi son histoire personnelle, je crois qu'il raconte ça dans un livre qui s'appelle La Tante et le Scribouillard, si mes souvenirs...
La Tante Julia et le Scribouillard,
voilà, c'est ça. Il avait épousé sa tante. Mais sinon, dans les essais, puisqu'il a écrit aussi pas mal d'essais, donc c'était un libéral, c'était un homme politique aussi. C'est d'ailleurs assez rare cette figure du grand écrivain, mais aussi il était candidat à la présidentielle au Pérou, mais aussi homme politique, un peu comme Tocqueville d'une certaine manière. Tocqueville était aussi un homme, ou Victor Hugo, qui étaient des hommes politiques et des grands écrivains.
Et qu'il admirait d'ailleurs.
Qu'il admirait beaucoup, oui. Et donc il était ça, il était à la fois un homme politique de premier plan au Pérou, mais aussi évidemment ce grand écrivain de romans, mais aussi d'essais. Donc je conseille beaucoup La Société du Spectacle, qui est un livre très courageux, parce que quand on est un grand intellectuel, oser critiquer l'art contemporain, c'est très risqué. Les gardes rouges de l'art contemporain sont vigilants.
Luc, on va changer complètement de registre, hein. On va parler de Donald Trump.
On redescend d'un ou deux crans.
Oui. Deuxième semaine de tempête, le président américain qui fait machine arrière la semaine dernière la position de nouveaux droits de douane sur les produits européens, une parenthèse de 90 jours.
Non, je ne crois pas qu'il fasse machine arrière. Encore une fois, moi je suis un libéral, donc je pense que à terme, le protectionnisme est toujours perdant, donc ce n'est pas le sujet. Mais je pense qu'évidemment, il sait très bien ce qu'il fait. Tout ça est prévu. Alors, je ne dis pas qu'il a tout prévu. Je pense qu'autant il se plante sur la Russie, et l'Ukraine. Là, il a du mal, vraiment, parce que là, il ne sait pas trop où il va. Et puis, bon, Poutine pose un problème majeur aujourd'hui, c'est que très probablement, Poutine a l'idée d'aller jusqu'à Kiev, en tout cas politiquement, c'est-à-dire de remplacer Zelensky par un polichinelle pro-russe. Donc ça, c'est très embêtant pour Trump. En revanche, je pense qu'il sait très bien que sa politique de droits de douane massif et incroyablement brutale, cette politique, va entraîner non seulement de l'inflation, ce qui est une évidence, mais même un élève de troisième le comprendrait, mais il sait évidemment aussi que ça va augmenter le prix du financement de la dette américaine, qui d'ailleurs en partie est aussi financée par les Chinois. Donc c'est une évidence.
13 milliards
d'euros. Évidemment qu'il le sait. Donc c'est la technique, c'est la tactique de Trump. Il commence par vous filer un uppercut. D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait à Zelensky. Il l'a littéralement insulté dans le bureau ovale. Et après, il lui serre la main en disant, bon, maintenant, tu te mets avec moi et puis tu vas obéir. Voilà. Ce qu'a fait Zelensky, d'ailleurs. Il s'est mis sous la tutelle de Trump. Bon. Et donc, il fait ça. 75 pays sont prêts à négocier avec lui. Donc il a gagné d'une... Alors je ne dis pas qu'il a gagné sur le plan économique, parce qu'encore une fois, je pense que ces politiques protectionnistes sont toujours perdantes, c'est perdant-perdant à terme. Mais il a gagné sur le plan politique, d'abord parce qu'il montre que la politique existe à une Union européenne qui n'a plus de politique, qui ne sait plus où elle va, qui a zéro politique. C'est assez incroyable.
Mais... L'absence de réaction, oui, voilà. Vous trouvez que l'Union européenne n'est pas à la hauteur,
on a tout retiré. Ouais. C'est-à-dire que dès que Trump a dit on baisse les droits de douane, on passe de 20%, il les a pas retirés, il en passe de 20 à 10, mais il garde les droits de douane de 25% sur les voitures, par exemple, ou sur l'acier. Et donc, nous, on a tout retiré d'un coup. Pourquoi on a tout retiré? Je ne cesse de l'expliquer à mes amis qui ne comprennent pas bien et qui pensent, ah, il faut y aller, il faut être vigilant, il faut être dur avec Trump, etc. Mais le problème, c'est qu'on est complètement dépendant des États-Unis en matière d'intelligence artificielle et de réseaux sociaux et de messagerie. Il suffirait que les États-Unis, que Trump demande à Microsoft de supprimer Outlook et on serait complètement perdu. C'est-à-dire que toutes les messageries mail s'effondreraient dans toute l'Europe, dans toutes les administrations et dans toutes les entreprises, 80% d'entre elles. Voilà, le CAC 40 serait arrêté dans le quart d'heure. Il y a un très bon article de Gilles Babinet, je le cite volontiers, sur la nécessité absolue d'un réarmement numérique de l'Europe. Voilà. Et donc, on est tellement dépendant des États-Unis sur le plan... Et on continue, les trois quarts de l'Europe continuent à acheter des F-16 et des F-35. Qui sont bourrés de millions de lignes numériques qui permettraient à Trump de clouer les avions américains au sol.
Et très bien savoir ce qu'on fait.
Oui, les Suisses en achètent, les Allemands en achètent, la Pologne en achète, le Danemark en achète.
Et même la riposte d'une défense européenne, non, vous n'y croyez pas pour l'instant.
Mais ça mettra 10 ans. Ouais. Et la riposte de la défense européenne, elle doit d'abord et avant tout passer par le numérique. Parce que si vous n'avez pas les drones aujourd'hui, mais les drones américains sont 1000 fois supérieurs aux nôtres, parce qu'ils sont bourrés d'intelligence artificielle. Si vous n'avez pas le numérique, si vous n'avez pas l'équivalent de Starlink, par exemple, d'Elon Musk, vos chars et vos avions, ils servent à rien. Donc on va fabriquer des rafales et puis des gros machins qui roulent, mais ça sert à rien si on n'a pas l'environnement numérique, vous voyez. Donc en fait, il y a un besoin, et ça, Trump nous réveille, l'Union européenne a besoin d'un réarmement numérique, industriel et militaire, les trois, mais ils sont interdépendants. Et pour l'instant, notre absence de réponse à Trump autre que la négociation, d'ailleurs Trump est très élégant, il nous lèche le cul, il a dit ça comme ça,
voilà, pardon, poliment comme d'habitude,
toujours aussi élégant comme il est, parce qu'en effet, on est tellement dépendant des États-Unis sur le plan militaire, numérique et industriel, beaucoup plus qu'eux, parce qu'encore une fois, Thierry Breton, il dit, mais il faut taper le numérique, mais si on tapait le numérique, ben, si on taxait le numérique américain, la rétorsion de Trump serait terrible. Encore une fois, imaginez qu'on n'ait plus de messagerie, par exemple, qu'on n'ait plus de mail. Pour parler
correctement. On en fait l'expérience.
C'est dingue. Imaginez qu'on n'ait plus de mails dans les hôpitaux, dans les administrations, dans les entreprises du CAC 40 et dans toutes les entreprises françaises. Mais c'est... Et alors, la véritable taxe, les gens ne comprennent pas ça, mais c'est une évidence. Trump dit, on va prendre 90 jours maintenant pour négocier. Mais ces 90 jours d'incertitude, ça plombe l'économie européenne et l'économie française en parle. Tout s'arrête. Parce que pour les chefs d'entreprise, ce qui est insupportable, c'est l'imprévisibilité du monde, c'est l'opacité du monde. Et ça, c'est la pire taxe, c'est bien pire que les 20%. Et donc, c'est ça qui se passe aujourd'hui. Et donc, de ce point de vue-là, même si à terme, la politique de Trump est perdant-perdant, néanmoins, sur le plan politique, je suis désolé de le dire, mais il a gagné. On est en train de ramper. Voilà. Quoi qu'en dise Thierry Breton, il dit, mais il faudrait être beaucoup plus dur. Mais d'abord, il est plus commissaire. Et en vérité, l'Europe se couche devant lui. Et 75 pays négocient. ne disent pas. Il n'y a que la Chine qui tape, mais la Chine, c'est parce qu'elle a ses messageries à elle, ses réseaux sociaux à elle, son intelligence à elle, ses armes à elle et son industrie à elle. La Chine est autonome, mais nous pas. Voyez, il faut que les gens comprennent ça, que les gens qui nous écoutent comprennent ça. C'est pas agréable ce que je dis, mais en un sens, c'est l'obligation pour l'Union européenne de se réveiller. Et ça, de ce point de vue-là, Trump nous rend service, sauf que ça mettra 10 ans. Ça peut pas être fait dans le quart d'heure.
Donc à suivre, affaire à suivre. Luc, on va terminer très rapidement par cette annonce à l'approche des fêtes de Pâques, un chiffre de la conférence des évêques de France. 10 384 adultes se feront baptiser lors de la nuit de Pâques du 19 entre le 19 et le 20 avril prochain. Oui. Un chiffre multiplié par 2 en 2 ans. Ça vous inspire quoi ce chiffre ?
Pas grand-chose, mais si, quelque chose de philosophiquement très intéressant. Oui. L'effondrement du catholicisme continue, donc il n'y a pas de retour. Le tour du religieux, c'est évidemment une illusion totale. En gros, en 1950, 95% des Français sont catholiques, se disent catholiques, 90%. Ils sont 35% aujourd'hui, donc il y a un effondrement. Simplement, pendant la pandémie, on a eu, et ça c'est très intéressant philosophiquement, on a eu un rapport à la mort qui était très particulier pendant la pandémie. Et donc les chiffres du baptême repartent très exactement juste après la pandémie. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu 130 000 morts à peu près en France. On a tous connu des personnalités comme les frères Bogdanov, qui étaient mes meilleurs amis, ou des gens comme Patrick Devedjian, ou mon ami Henri Weber, qui sont morts de la Covid pendant la pandémie. Ce qui fait que, à la fois, l'activité quotidienne, le ronron quotidien s'est arrêté puisqu'on était en confinement, et en même temps, on voyait les gens mourir. Donc, on s'est mis à réfléchir à la mort. Et donc, du coup, comme le fond de commerce, si j'ose dire, pardon d'être un peu brutal, mais des religions, c'est la mort, évidemment. Et c'est ce que dit Schopenhauer dans un texte magnifique. Il dit, voilà, il n'y aurait jamais eu ni de philosophie ni de religion si nous n'avions pas le sentiment de la mort. Voilà. Et c'est par rapport à la mort qu'on pense à des doctrines du salut, qu'elles soient philosophiques ou qu'elles soient religieuses. Et donc, et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est les adultes, c'est pas les enfants, c'est les adultes et les adolescents, mais pas les petits.
Les adolescents aussi, voilà, c'est ça.
Voilà. Donc, des enfants, des grands-enfants ou des adultes qui réfléchissent à la mort et qui ont réfléchi à cette question de la mort pendant la pandémie et qui se sont dit, mais finalement, au fond, cette promesse chrétienne est magnifique. Je vais retrouver ceux que j'ai aimés, si on y croit, si on croit en la parole du Christ, un cum fides, avec confiance, avec foi, alors c'est la plus belle religion qui soit, parce qu'elle nous promet les retrouvailles post-mortem avec ceux qu'on a aimés, évidemment. Et notamment pour les personnes qui ont perdu, par exemple, des vieillards en EHPAD, qu'ils n'ont pas pu enterrer eux-mêmes, qu'ils n'ont pas pu assister aux funérailles, parce que c'était interdit, c'était horrible. Voilà. Ouais. Ben, pour ces gens-là, voilà, peut-être que cette promesse chrétienne, euangelia, ça donnait le mot évangile en français, bonne nouvelle, bah oui, ça parle. Mais le catholicisme, encore une fois, on est passé 45 000 prêtres en 1950, 4 500 aujourd'hui. 95% de baptisés, y compris les communistes en 1950, 35 ou 40% aujourd'hui. Voyez, donc l'effondrement est là, mais il y a un regain chez les adultes parce que pendant la pandémie, on a eu ce rapport très particulier, cette rupture de la quotidienneté, ce rapport à la mort qui a fait réfléchir les gens.
Donc plus qualitatif aussi peut-être dans la démarche.
Exactement, vous avez mille fois raison, c'est exactement ça. Avant, c'était quantitatif parce que les parents nous obligeaient à aller à la messe, c'était un catholicisme d'habitus. Mais auquel on ne croyait pas, enfin pour autant. Tandis que là, personne n'est obligé de se convertir ou de se faire baptiser. Donc c'est beaucoup plus qualitatif. D'une certaine manière, quantitativement, ça continue à diminuer, mais qualitativement, c'est bien meilleur. Voilà. Et ça, c'est vrai, c'est très important, parce qu'on n'est pas obligé d'aller se faire baptiser aujourd'hui. Ce n'est pas de la tradition familiale. C'est un souhait de la part des adultes, donc c'est qualitativement bien supérieur.
Luc Ferry, Esprit Libre, notre Esprit Libre du jour ce matin. Merci beaucoup Luc, bonne semaine.
Mais de l'année même.
Mais de l'année même, voilà, c'est ça.
C'est pas que aujourd'hui.
De lundi, lundi
tous
les ans.
Merci beaucoup, vous êtes adorable. Merci à vous.
Et bonne journée et à très très vite. Dans un instant, le flash de 9h sur Radio Classique. À tout de suite.
Retrouvez les carnets de Gauthier Capuçon du lundi au vendredi à 17h sur Radio Classique. Cette émission est disponible en podcast sur radioclassique.fr et sur vos plateformes de streaming habituelles.
Et si le meilleur de l'intelligence artificielle était au service de votre métier ? Cegid innove pour élever la performance des entreprises et leur permettre de préparer l'avenir avec confiance. Chaque mercredi à 7h59 sur Radio Classique, retrouvez les dernières innovations pour la gestion d'entreprise avec Cegid et Fabrice Lundy.
À ce stade de la compétition, tout peut arriver. Le parcours d'une équipe peut devenir une épopée. Une rencontre, un classique. Un joueur, une icône. Cette saison, l'histoire du football s'écrit sur les chaînes Canal+. Suivez les quarts de finale retour de l'UEFA Champions League avec les chocs Aston Villa Paris SG demain à 21h sur Canal+ Foot et Real Madrid Arsenal mercredi à 21h sur Canal+. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com.
Alors, where is Brian? Où est Brian? Brian in the USA. Brian est aux USA. Where is Jenny? Ben oui, elle est où, Jenny?
Il va falloir réviser votre anglais. En ce moment, avec les essais 100% électriques Ford, tentez de gagner 5 voyages à la découverte de l'Ouest américain. Inscrivez-vous sur Ford.fr.
Ah bah, tous les coups, elle est aux États-Unis. Hey, Brian!
Ford. Jeu valable du 15 mars au 30 juin 2025. Règlements et conditions sur Ford.fr. Gratuit, sans obligation d'achat. Pensez à covoiturer.
Dans un instant, le flash de 9h sur Radio Classique.